Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. J'espère que vous avez que vous allez bien. On avait prévu aujourd'hui vous parler de rupture conjugale parce qu'on trouve qu'avec le sujet d'actualité encore plus criant cette semaine puisqu'on apprenait un neuvième probablement féminicide, on avait l'intention donc, et on va le faire au cours de la prochaine heure, de parler de rupture amoureuse. On a, entre autres, été très touchés avec l'équipe par un témoignage, celui d'Alain. Il va nous le livrer tout à l'heure, qui a vécu récemment une rupture amoureuse et qui va nous dire comment il a réussi à passer au travers et comment il a réussi à gérer ça. Mais avant, parce que c'est tellement relié à notre sujet, je veux absolument qu'on parle de la formidable intervention de l'auteur David Goudreau à l'émission Bonsoir, bonsoir mercredi. David s'est intéressé à ce sujet-là et il s'est adressé aux petits garçons, aux gars du Québec, mais aussi à ses chums, aux hommes, à un peu tous les gars du Québec, tous les hommes du Québec qui doivent se réfléchir, en fait, réfléchir entre eux, puis entre nous tous, on doit tous se réfléchir à tout ça. Mais David a fait quelque chose de vraiment formidable. Et voici un extrait.
Petit gars, je veux te donner de l'amour. Ça brasse pour toi, pour nous, ces temps-ci.
David Goudreau est avec nous. Bonjour, David.
Bonjour, Isabelle.
Je sais que vous êtes happé par, par plein de monde ce matin parce que ça nous a...
C'est une belle surprise, c'est bien correct.
Ouais. David, vous avez dit, petit gars, ça brasse pour toi, pour nous, ces temps-ci. Vous parlez de tout ce qui se passe par rapport à la violence conjugale, puis vous dites un peu, c'est assez. Pourquoi avoir pris la parole là-dessus cette semaine, David?
Ben, parce que c'est un sujet d'actualité. C'est important, je pense, comme chroniqueur, même si on le fait de façon poétique ou artistique, de se questionner sur les enjeux de société. Moi, il faut savoir que je suis travailleur social aussi de formation. J'ai travaillé auprès des victimes d'actes criminels. Et surtout, j'ai été très interpellé par 9 féminicides en très peu de temps. Faut savoir aussi que celui qui a eu lieu à Iwuivik m'a bouleversé. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire des ateliers de poésie avec les adolescents inuits là-bas. C'est un tout petit village, quelques centaines d'habitants. Des humains magnifiques, brillants, drôles, qui sont aussi aux prises avec des problématiques sociales effroyables. Puis ça m'a vraiment bouleversé, cette femme-là qui était mère et grand-mère de plein de jeunes que j'ai croisés, avec qui j'ai écrit de la poésie. Donc ça me pognait dans les tripes. Puis en même temps, j'avais envie de rappeler que les hommes ne sont pas mauvais, mais il y a quelque chose en nous, probablement, qui vient en partie de l'éducation, en partie de la testostérone, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a une violence qui est là, qui est extrêmement dangereuse. Et si on la regarde de face, elle sera déjà moins dangereuse. De se le dire qu'on se tue et on tue davantage parce qu'on apprend la violence, parce que on a cette agressivité qui peut se transformer en coup et qui doit être dénoncée. Si on se dit non, fais n'importe quoi sauf ça, je pense que ça peut fonctionner. Il y a de la prévention qui a fonctionné au Québec, entre autres au niveau de l'alcool au volant, même au niveau du suicide. Il y a plein de problématiques sociales comme ça. Quand on s'est dit non, ça passe plus, qu'on l'a répété, qu'on l'a martelé, ben ça s'est intégré dans la psyché collective. Puis moi, je crois qu'il est temps que les gars, on dise aux autres gars, c'est pas acceptable, c'est pas cool d'exprimer ta colère par la violence, puis surtout pas sur des femmes, puis surtout pas de façon homicidaire.
Voilà. Ouais. David, dans votre lettre d'amour au petit gars, vous posez la question, quel genre de modèle on nous propose? On va écouter un extrait d'ailleurs.
Quel genre de modèle on nous propose? Des joueurs de hockey qui s'imposent sur la glace, des batailleurs MMA qui s'imposent sur le ring, des rappeurs un peu misogynes qui s'imposent dans le game, les super-héros qui règlent tout à coups de poing. Pas simple d'aller te dire d'être sensible et en contact avec tes émotions. Mais entre Iron Man, Rocco Siffredi et José Lito Michaud, il y a un large spectre, une vaste palette de mecs à être. Complexe peut-être, mais tu peux être sans écraser l'autre. On peut sortir du vieux moule pourri de l'homme fort à tout prix. On se les fait mettre d'en face nos erreurs et nos errances. C'est rough, mais il y a eu trop de viol, trop de violence.
Accepte qu'on te dise non aussi, vous dites, David. Est-ce que c'est un problème de manque de modèle, vous pensez?
Je pense que c'est multifactoriel, là, vraiment, qu'il y a plein de choses qui viennent jouer. Mais oui, il y a peut-être cette idée des modèles. Puis en même temps, c'est particulier parce qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de questionnements sur les genres. Hein, puis à quel point est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a des gars qui adhèrent au modèle masculin traditionnel et que être présentés de manière positive, puis que les gars qui s'identifient comme étant plus masculins, ben que ça vienne pas avec l'idée de la violence, que ça vienne pas avec l'idée de l'agressivité, de dire qu'on peut être très homme, très viril, même à la limite, sans sacrer de voler à personne et sans avoir besoin d'utiliser la violence pour exprimer sa détresse. Parce que c'est ça aussi qu'il faut pas perdre de vue derrière, puis qu'il faut absolument protéger les femmes, c'est la sécurité d'abord, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a une grande détresse. Puis c'est intéressant que vous parliez de rupture aujourd'hui, parce que c'est vraiment un facteur déclencheur hyper important de la violence chez les hommes, au niveau du suicide, évidemment, au niveau aussi des agressions, des meurtres. Donc, comment est-ce qu'on apprend aux gars à se faire crisser là? Moi, on m'en a jamais parlé. J'ai jamais eu dans mes cours d'FPS à l'école des intervenants qui sont venus me dire « Hey, dans la vie, tu vas vivre des ruptures, ça va être rough, ça va remettre en question tout ce que tu es, puis voilà ce que tu peux faire. » Et ça, il faudrait le dire, il faudrait le faire. Il faut reconnaître que les gars, on est plus vulnérables parce que notre réseau social souvent repose sur le couple, sur la conjointe. La conjointe, c'est aussi souvent la confidente. C'est une alliée surinvestie. Et quand on la perd, ben ça nous désorganise, ça nous met dans une grande détresse. Donc, il faut apprendre aux gars à avoir de vrais amis avec qui ils peuvent être vulnérables, avec qui ils peuvent parler de leurs émotions, qui peuvent se permettre de brailler, puis que c'est correct. Puis ça reste à faire en 2021. La réalité, c'est qu'on le voit pas ça tant que ça à la télé, puis on l'entend pas tant que ça dans la chanson, puis dans la poésie, puis dans les films, puis faut le présenter ça. Des hommes qui sont dans un modèle masculin plus assumé, dans lequel certains gars vont se reconnaître ou vont vouloir se reconnaître, sans tomber dans la caricature du gangster rap ou de la brute épaisse ou voilà. Donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion, il y a une représentation des modèles masculins qui doit être faite, et on doit présenter aux jeunes hommes des modèles masculins positifs qui ne sont pas dans le piège de la violence.
Ah, c'est formidable ce que vous dites, David. Il faudrait une tournée dans les écoles, parce qu'il faut le dire aux jeunes, en fait, il faut le dire aux petits gars, comme vous l'avez fait un peu hier, mercredi.
Oui, absolument. Il y a de l'éducation à faire avec les jeunes et de l'intervention à faire avec les plus vieux. Voilà.
Les plus vieux, voilà. David Gaudreau, merci beaucoup, David, d'avoir pris le temps de nous parler. Et je suggère à tout le monde d'aller écouter ça. Je l'ai mis sur ma page Facebook, David. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le partager. David Gaudreau, auteur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Toujours un plaisir, Isabelle. À bientôt.
Merci. On va vous faire jouer un autre extrait de cette lettre d'amour au Tiga. C'est vraiment important de mettre l'amour là-dedans. C'est sa première phrase de David. Je l'adore. Il dit « Tiga, je veux te donner de l'amour. Ça brasse pour toi, pour nous, ces temps-ci. Turbulence, douleur de croissance, remise en question de nos relations avec les femmes. Je ne veux pas parler en leur nom. D'autres l'ont fait mal, beaucoup mieux que moi. » On va avoir le témoignage d'Alain après la pause. Voici un extrait. On va à la pause, on revient avec un témoignage. Vous allez voir, ça va être tout à fait la suite logique de ce qu'on vient de dire.
C'est un fait. Nous tuons davantage, nous frappons plus souvent, nous assassinons. Puis étant qu'on s'inquiète, qu'on se ramasse entre gars, qu'on se brasse pour se dire « plus jamais ça, plus jamais 9 féminicides en quelques semaines au Québec », c'est pas digne de la beauté des hommes, de la bonté de la majorité d'entre nous. Mais le danger est là. C'est aussi ça, les hommes, petit gars. Fait que si tu sens monter cette violence, si t'es pour frapper, pour tuer, sac ton camp, décrisse le plus loin, le plus vite possible. T'as le droit de le ressentir, t'as pas le droit de l'agir.
C'est intéressant, David Gaudreau, auteur, nous l'a dit tout à l'heure. Moi, il y a personne qui m'a montré, qui m'a appris à accepter la rupture amoureuse. Personne m'a dit, garde, là, si jamais tu te fais laisser, ça va se passer comme ça, puis tu vas essayer de réagir comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour l'amour. Il n'y en a pas pour les relations amoureuses. Il y en a encore moins pour le moment où ça finit. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est sûr que les choses sont vécues différemment. On va en parler, puisque Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, est avec nous. Bonjour, Sylvie.
Bonjour, Isabelle.
Tu me permettras de donner la parole d'abord à Alain, qui a vécu une rupture amoureuse récemment. Alain nous avait écrit, puis on a été très touchés par son témoignage, donc on lui a demandé de le partager avec nos auditeurs ce matin. Bonjour, Alain.
Bonjour, Isabelle.
Vous avez entendu David Goudreau, sa lettre d'amour au petit gars. Beaucoup de gens sont interpellés par ça. Je peux vous dire, il y a beaucoup de gars qui réagissent aussi. Pas toujours du bord qu'on voudrait, là. Il y en a qui le prennent mal. Peut-être qu'ils n'ont pas compris de la même chose qu'on a compris. Comment vous l'avez reçu, vous, ce texte-là, et ce que disait ce message de David?
Wow! Quelle intervention pour les hommes. C'est vraiment touchant. C'est quelque chose, puis c'est une réalité. Puis j'ai été mis face à cette réalité-là il y a 5 semaines, suite à une rupture amoureuse. Ça a été très difficile, ça l'est encore. Je travaille sur moi. Puis, excusez, là, j'ai de l'émotion. Là. L'intervention de David est venue me chercher très profondément. Oui, ça a été. Je me permets d'intervenir aujourd'hui, justement, si mon intervention peut permettre d'aider un homme au Québec, de faire les bons gestes, d'aller chercher de l'aide. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est mon groupe d'hommes. Je raconte, il y a 14 ans, j'ai fait un atelier de croissance personnelle pour hommes. Et depuis 14 ans, à tous les 3 semaines, on est 5 hommes qui se rencontrent pour se pratiquer à exprimer nos sentiments, exprimer ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on se sent, ce qu'on vit. Et ils m'ont accompagné là-dedans. C'est sûr que j'ai un bon entourage, la famille, des amis. J'ai des endroits pour me déposer, pour exprimer comment est-ce que je me sens. Ça m'a aidé beaucoup. J'ai eu beaucoup d'appui. J'ai eu de l'appui de mon groupe d'hommes. Et ça m'a aidé beaucoup. Ça m'aide à comprendre, surtout. Et je suis encore à la recherche de réponses. Pourquoi que la relation s'est terminée? Elle était rendue à sens unique. J'ai pas eu vraiment de réponse claire, nette et précise pourquoi que la rupture a eu lieu. C'est ce que je trouve le plus difficile.
C'était la façon, Alain, que vous diriez que la relation s'est terminée qui vous a le plus troublé? C'est le fait que vous n'étiez pas préparé à ça du tout? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Oui.
Je l'avais vu venir peut-être un mois à l'avance qu'il y avait une distanciation qui se faisait. Puis bon, c'est certain qu'on était chacun dans nos maisons et avec la pandémie, ça n'aide pas. On pouvait se voir une fin de semaine sur peu. On est à une certaine distance. C'est une relation de 2 ans. Que j'étais bien impliqué, puis qu'elle aussi était bien impliquée, puis à un moment donné, ben, ce qui s'est passé, regarde, c'est quoi? Puis là, je me suis posé plein de questions. Et là, ben, j'ai laissé tomber la serviette de trouver des réponses. Ouais. Ce que je veux faire actuellement, c'est m'occuper de moi. M'aimer avant tout.
Parce que vous, Alain, votre. Oui. Juste pour qu'on comprenne bien, là. Vous avez vécu donc cette rupture amoureuse, c'était il y a 5 semaines à peu près, c'est ça? Oui. Je dois dire, vous avez 58 ans, vous étiez donc en relation depuis 2 ans, chacun votre maison. Exact. Et là, vous dites, j'ai pas eu vraiment de réponse. Comment elle vous l'a annoncé, la rupture, votre ex-conjointe?
C'est moi qui ai fallu qu'elle cherche la réponse, parce que j'ai bien vu qu'il y avait de la distance, qu'est-ce qu'elle prenait ses distances. Et j'ai posé la question carrément, je dis, est-ce que tu éprouves des sentiments pour moi? Est-ce que tu m'aimes? La réponse a été non. Je m'ennuie plus de toi, je m'ennuie pas. Je pense de moins en moins souvent à toi. Puis moi, j'ai essayé d'allonger la discussion, de voir qu'est-ce qu'il en était. J'ai pas eu de réponse. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse. Je ne comprends toujours pas le pourquoi. On s'est revu une fois, qu'elle est venue chercher ses effets personnels 2 semaines après à la maison, puis il n'y avait pas de réponse, ou il n'y avait pas de. Donc, je ne voulais pas trop pousser, trop aller. Je sentais qu'elle n'était pas prête à s'ouvrir et à dialoguer, à échanger. Donc, j'ai laissé aller comme ça, puis. C'est ça. Fait que je suis pris avec ça. Et je veux juste mentionner que je comprends, j'ai. La douleur intérieure, l'abandon que j'ai senti, la souffrance, je peux comprendre que certains hommes peuvent se sentir complètement déstabilisés et venir à des gestes, j'approuve pas du tout, là. Et j'en suis pas, je suis pas arrivé là. Mais j'ai senti la détresse intérieure qui était tellement profonde que une chance que j'étais bien entouré et que j'avais mon groupe d'hommes qui était là. Je me sentais supporté. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qui m'a, c'est ce qui est en train de me sortir de cette souffrance-là et de penser à moi et d'avoir espoir à l'avenir, de ce qui s'en vient pour moi. Et puis que le soleil est ressorti, je me suis surpris le week-end passé avec toute la musique et à chanter et à retrouver mon sens de l'humour avec des amis, en échangeant avec les gens, avec mes collègues de travail. Et puis, ça va de mieux en mieux. Les semaines passent et ça va de mieux en mieux.
Bien, tant mieux, Alain, on est vraiment content d'entendre ça. Puis c'est important ce que vous nous dites. Vous avez parlé de la blessure d'abandon. Évidemment, c'est souvent ça. Puis vous le dites, je comprends, sans les justifier, bien sûr, on a bien compris ce que vous avez dit, là. Je peux comprendre que certains hommes perdent complètement le contact avec la réalité un peu, là. C'est ce que vous nous avez un peu dit, parce que si vous n'aviez pas été entouré, ce genre de pensée-là aurait pu vous venir. J'ai envie de demander à Sylvie Lavallée de réagir à ce que vous venez de dire. Sylvie est sexologue, psychothérapeute. Sylvie, c'est fort le témoignage d'Alain, là. D'ailleurs, merci Alain, parce que ce que vous dites, c'est sans doute ce que ressentent en ce moment beaucoup d'hommes au Québec qui ont peut-être pas la capacité de le dire aussi bien que vous le faites. Sylvie, qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment-là?
Mais beaucoup de choses. Premièrement, la rupture, c'est un deuil. Okay? C'est un vide. C'est la perte. Et je pense que c'est tellement cruel de se faire laisser sans explication. C'est cruel pour la personne qui laisse de pas au moins s'expliquer du pourquoi je te laisse, qu'est-ce qui m'insatisfait. Et c'est difficile à rester dans l'incompréhension, puis les points de suspension pour la personne qui est laissée, qui a pas fait le processus de deuil, qui est sur le choc, qui a pas vu venir ça, et qui a même pas, il peut même pas tirer des leçons pour s'apaiser, pour évoluer, pour progresser. Alors, c'est pour ça que je trouve ça cruel. Le non, c'est le pire mot en amour. Non, je t'aime pas. Non, je te désire pas. Non, je veux pas progresser. Non, j'ai pas le coup de poursuivre. Non, je suis plus motivée à faire des projets. Mmh. Alors que le oui est le plus beau mot. Parce que le oui, ça ouvre. Le oui, ça veut jouer. Mais non, c'est fini. Non, c'est la fin. Non, je t'aime plus. Ça fait tellement mal. Et je le redis pour quelqu'un qui, comme Alain, n'a pas vu venir ça. On peut pressentir. On peut avoir quelques hypothèses. C'est sûr que des fois, dans la vie, on n'est pas toujours en fusion, là. On n'est pas toujours en train d'honorer notre sentiment amoureux. Puis des fois, on s'aime mal. Ou on s'aime à peu près. OK? On donne le 50% de notre potentiel et on le sait. Mais on se rattrape, on se réajuste. Mais là, de le pressentir ou d'émettre des hypothèses et puis se le faire confirmer après, ben non, c'est fini. Et ça s'arrête là. Je me dis une chance qu'il y a eu son groupe pour pouvoir l'évacuer puis ventiler. Parce que il faut que je le partage, ça. Je frappe un mur que j'ai pas vu, puis qu'on m'a même pas annoncé qu'il arrivait, voyons donc. Je veux dire, maintenant qu'il y a des caméras, ces voitures, on est guidés de partout pour nous annoncer de quelque chose, puis là, celle-là, on l'a pas vu. Ça fait tellement mal, c'est épouvantable.
Mais Sylvie, là-dessus, sur cet élément-là, parce qu'on l'a bien compris d'Alain, qui nous l'a dit, moi, je chantais quelque chose. Hein, Alain, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vais pas parler pour vous, là. Vous avez dit, chantais qu'il y avait peut-être quelque chose, mais vous avez été pris par surprise. C'est comme si vous l'aviez pas vu venir du tout, cette rupture.
Ben, tu sais, avec la pandémie, la distanciation, avec tout ce qui se passe.
Ah, c'est ben, ça a pas aidé.
Je me donnais des excuses. Tu sais, je me disais, ben, il y a ça, tu sais. Et c'est pas comme lorsqu'on vit ensemble tous les jours. Tu sais, où est-ce qu'on peut palper des choses, des sentiments, on peut, tu sais, il y a des choses, mais ça a été assez radical, je dirais, là, comme je te dis, là, Isabelle, c'était en l'espace de quelques semaines que ça a dégénéré, puis, et ma conclusion, j'en ai pas de conclusion, il y a plein de pistes que j'essaie de prendre, de comprendre, puis, c'est ça. J'ai déstabilisé complètement. Ouais. Complètement, complètement.
Ouais, Sylvie?
Ben, le processus à faire présentement, Alain, et à tous ceux qui nous écoutent, je vais le dire comme ça, je sais que ça sera peut-être pas évident, puis c'est un peu difficile, ça va être de trouver en nous notre réponse. Qu'est-ce que moi, je déduis de cette relation-là? Qu'est-ce que j'en pense? Comment j'en conclue? Mais il va falloir qu'on tire nos propres conclusions. Le conte de fées s'est terminé. C'était pas la fin programmée. On est plus dans un film français qui finit mal. Et là, ben moi, ma conclusion, c'est quoi? Je peux pas rester avec quelqu'un qui s'éloigne. Je peux pas rester avec quelqu'un qui m'aime plus. Je peux pas rester avec quelqu'un qui ne communique pas. Mm-hmm. Je peux pas rester avec quelqu'un qui veut même plus me tendre la main. Je peux pas rester avec quelqu'un qui me dit même pas le fond de sa pensée, qui m'ouvre pas son cœur, qui est plus disponible. Je peux pas rester avec quelqu'un qui m'accueille plus. Alors, c'est ça qu'il va falloir se dire lentement, doucement, avec beaucoup de bienveillance. Puis je sais que c'est pas l'ultime réponse, mais des fois, on les obtient pas, ces réponses-là, parce que la personne qui quitte, des fois, elle ne sait même pas.
Oui, c'est ça.
Alors, je pense que c'est ça qu'il va falloir trouver présentement, de tirer ses propres déductions, puis de moi, rester dans de l'incompréhension puis des non-dits, pandémie ou pas, distanciation ou pas, avec toute la technologie qu'il y a, avec le fait de se parler, de communiquer, c'est comme inacceptable, là. Alors, c'est dire, moi, cet éloignement-là, est-ce qu'elle avait des vues sur quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un problème personnel qui est arrivé? Est-ce que c'est ma faute, c'est de sa faute? De tirer ses propres réponses, d'y trouver ses propres réponses, puis dire, ben présentement, je vais essayer de m'apaiser avec ça, parce que de rester en suspens, c'est pas une vie. C'est une façon pour moi, ce que je vous dis, de mettre un point après la phrase, puis de commencer un autre chapitre.
Mais est-ce que c'est important, à la rigueur, de trouver une réponse, vraiment, de faire cet exercice-là? Parce que ça, si tu pars dans « Ah, c'est peut-être parce qu'elle avait une vue sur quelqu'un d'autre », c'est là où il y a des gars qui capotent, parce qu'il y a de la jalousie qui embarque là-dedans, puis là, ben la maudite, c'est pas vrai qu'elle va... Si elle n'est pas avec moi, elle ne sera pas avec quelqu'un d'autre. C'est ça, souvent, okay, qu'on...
Ça, oui. C'est sûr que c'est toutes des spéculations. Tout ça, là, quand on a mal, puis ce qui arrive et ce qui est dramatique ces temps-ci, c'est qu'il y a... Puis c'est désastreux, c'est qu'il y a des hommes qui disent « c'est pas vrai que je vais être le seul à avoir mal.
Ouais. »
Elle aussi, elle va souffrir. Mm-hmm. Okay? Alors, c'est sûr que quand on spécule, puis c'est humain, là, on essaie de trouver des réponses, l'humain veut comprendre. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai ratissé un petit peu plus large, mais je pense que ça aide, à un moment donné, à passer à autre chose, au lieu de toujours ruminer, toujours se tourmenter, ça ne fait qu'engendrer des troubles anxieux. Puis ça, c'est énergivore, c'est épuisant, puis c'est éreintant à la longue. Ça fait qu'on dort pas, on mange plus, on n'est plus concentré, on est inefficace.
Ouais, tout à fait.
Donc, c'est très handicapant de faire ça. Alors, c'est comme une façon de trouver un auto-apaisement en soi, puis dire, ben moi, je tire ces conclusions-là, je peux pas rester avec quelqu'un qui agit comme ça avec moi.
Ouais, à partir du moment où quelqu'un te dit « je t'aime plus », qu'est-ce que tu veux faire?
Ben, il n'y a plus rien d'autre à faire.
C'est fini, puis ça semble... Personnellement, je pense que ça sert plus. Est-ce que c'est d'intérêt d'aller savoir pourquoi? Je veux dire, il y a un moment.
Ben, je pense que la question se pose, est-ce que je peux savoir à partir de quand tu as arrêté de m'aimer? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui t'ont fait reculer? Y a-t-il des choses qui se sont accumulées puis que moi, je peux corriger éventuellement? Des fois, c'est des traits de personnalité, des tempéraments, des façons d'être, qu'on se voit plus parce qu'on est de même.
Hein? Des fois, c'est l'autre. Des fois, c'est l'autre qui a des bébites puis qui est traîne puis qui les a pas gérées aussi.
Oui,
t'sais.
Oui, des fois,
les femmes
n'ont
pas toutes
non engagement.
Oui, exact. Les femmes n'ont pas forcément toutes les bonnes
façons
de quitter aussi, là, tu sais. Si on se regarde, bougez pas tous les deux. Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute, elle est avec nous pour la prochaine demi-heure encore. Vous allez pouvoir lui raconter vos expériences avec la rupture amoureuse, hommes et femmes d'ailleurs. Alain aussi, merci Alain d'accepter de rester encore un petit peu. Ce qu'on se demande, c'est qu'on semble voir chez les hommes une plus grande difficulté que les femmes à surmonter la rupture amoureuse. Remarquez qu'il y a des femmes aussi qui le vivent très, très mal. Je pense qu'on peut dire que les femmes et les hommes le vivent différemment. Moi, j'aimerais vous entendre. Évidemment, j'aimerais beaucoup entendre les gars parce que, comme nous le disait David Goudreau tout à l'heure, il faut vous donner la chance de vous exprimer. J'aime bien que cette émission soit un lieu pour ça, pour vous. Alors, c'est sûr que si vous avez envie de nous raconter vos expériences avec la rupture, un peu comme Alain l'a fait, beaucoup de bienveillance, bien sûr, puis on est là pour vous écouter. Ne vous gênez pas pour le faire. Les femmes aussi. Je pense que c'est pas juste les gars, là. Il y a aussi des femmes qui ont de la misère à accepter la rupture. 514-790-9850. On revient tout de suite. Bougez pas. Les hommes ont-ils plus de difficultés que les femmes à surmonter une rupture amoureuse? C'est la question qu'on se pose ensemble ce matin. Stéphane nous écoute, il avait envie d'intervenir. Bonjour Stéphane.
Bonjour, ça va bien?
Oui.
Écoute Isabelle, les gars, ils ont tout un problème, c'est justement, c'est qu'ils sont dépendants affectifs, ils sont pas autonomes, ils ont besoin d'une femme pour le lavage, le ménage, les gars ont besoin de ça. Moi, j'ai été 20 ans avec une femme, j'ai deux enfants, une fille et un garçon, puis j'ai senti venir l'affaire, j'ai appris à me protéger, mais il faut que les hommes apprennent à se débrouiller, apprendre à être autonome dans une maison, se faire à manger, puis être capable de s'arranger. Moi, c'est ce que j'apprends à mon gars présentement. Il a 18 ans, il reste avec moi.
Mm-hmm.
Puis mon gars, il fait à manger, j'ai montré. Écoute, moi, je suis un ancien cuisinier. Aujourd'hui, je suis dans le transport, là, tu sais.
Mm-hmm.
Puis
vous avez vécu des ruptures, ouais,
oui,
c'est ça?
J'ai vécu des ruptures. Écoute, la mère de mes enfants, j'ai été 20 ans avec, ça fait mal, là, ça prend
ouais.
dedans, là,
ouais.
quand que... Tu sais, écoute, 20 ans, t'as une maison, t'es en banlieue, tout va bien. Du jour au lendemain, elle te dit, ça marche plus. Achète-toi un condo, débrouille-toi, déménage. Moi, je garde ma maison. Puis,
ça a été du jour au lendemain pour vous, Stéphane?
Ouais, ben je sentais venir l'affaire depuis plusieurs années, là. Mais pas comme ça, tu sais. Puis, il n'y a pas eu de discussion. Puis, quand j'ai vu ça, ben je me suis revenu de bord. J'ai acheté un condo, je me suis installé, tu sais. Puis, il faut apprendre écoute, après 20 ans avec quelqu'un, là, moi, j'ai une business, tu sais.
Mm-hmm.
Alors, j'ai appris à travailler beaucoup dans mon commerce. Fait que j'ai comme oublié de faire à manger. J'avais tout oublié ça, tu sais.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Puis, j'ai retrouvé ça après un certain nombre d'années. Puis, j'ai ressorti mes chaudrons, mes recettes, me suis fait à manger, me débrouiller. Puis, finalement, bon, aujourd'hui, je suis vu tout seul, ça fait 8 ans. Puis, avec mon gars, puis je suis bien heureux. J'ai rencontré beaucoup de filles. Mais je sais pas si je vais retourner rester avec quelqu'un. Je pense que je vais passer le reste de ma vie comme ça, je suis correct demain.
C'est vrai?
Ouais,
parce que vous voulez plus revivre un risque de blessure?
Non!
Non?
Écoute, Isabelle, je veux pas... Écoute, t'es une femme, toi. Je veux pas parler en mal contre les femmes, mais avec toutes les filles que j'ai rencontrées, c'est tout du pareil au même. Et je cherche un homme pour... faire des tâches à l'extérieur, réparer les voitures, faire toutes sortes de choses de même. T'sais. C'est dans le fond, une femme charge beaucoup un employé. Après vient le sexe, l'amour, s'il y a place.
Mm-hmm.
Puis moi, j'ai réalisé que je suis un gars trop occupé, j'ai trop de choses à m'occuper. Je peux pas lui donner le temps qu'ils ont besoin. T'sais, j'ai sorti avec une fille pendant un an et demi qui avait une maison.
Mm-hmm.
Elle m'appelait pour aller racler son gazon, ces choses-là. J'ai pas le temps de ça.
C'était peut-être pas la bonne personne.
Camions.
Ben oui, Stéphane.
Hey,
merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est intéressant d'entendre Stéphane parce qu'il l'a vécu 20 ans avec quelqu'un. C'est quelque chose. Puis il y a un gars de 18 à qui il enseigne justement l'autonomie, finalement. Sylvie Lavallée, veux-tu dire quelque chose, un petit mot là-dessus, Sylvie? C'est intéressant, le bout, ben, je le montre à mon gars de s'arranger tout seul. Est-ce que tu es d'accord que souvent, les hommes, c'est un peu ça qui les perturbe, c'est qu'ils se ramassent tout seuls, puis ils ont comme pas... Il n'y a pas tout le... C'est plus que le domestique, là, je pense.
Oui, je pense que le témoignage de Stéphane représente la... Il représente la voix de plusieurs hommes aussi.
Ouais.
C'est sûr que plus on est solide, plus on est autosuffisant dans une relation, meilleur va se porter la relation parce qu'on va pouvoir faire un vrai travail d'équipe.
Mmh.
Mais c'est vrai qu'après 20 ans, on dirait qu'on se répartit les ministères. Hein? Un a le loisir, sport et jeux, puis l'autre a l'administration, le ministère de la famille, des finances. Donc, c'est normal, on se répartit les tâches. Mais ça repose...
Mais des fois, il faut se retrouver dans le salon bleu.
T'sais. Ben oui, oui. C'est parce que, à un moment donné, c'est parce que c'est plus que ça. La détresse des hommes après une rupture, c'est la perte de la présence affective et amoureuse. La femme porte plusieurs chapeaux. C'est mon amie, c'est ma confidente, c'est mon mentor, c'est ma coach, c'est mon infirmière psychiatrique, c'est ma partenaire de vie, ma partenaire sexuelle. Des fois, c'est mon aidante naturelle.
Mais est-ce que c'est l'éducation? C'est ça. Puis, si tu me permets, on a Rémi, qui est un enseignant au secondaire. Bonjour, Rémi.
Bonjour, ça va bien?
Oui. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus, en lien avec ce que Sylvie, justement, vient d'expliquer, puis le témoignage de Stéphane auparavant et d'Alain?
Mais je me regardais le premier témoignage en début d'émission. Là, il parlait, on m'a pas appris à me faire, je répéterai pas le terme.
Mais c'est David, oui, c'est David Goudreau qui disait ça, oui.
Moi, ce que je remarque, là, ça fait 20 ans à peu près que j'enseigne, là, j'ai commencé avec la réforme, puis au début de la, ça explique pas tout, là. Mais de plus en plus dans les écoles, on a peur que les élèves échouent pas, tu sais, on sait, le ministre Bovet est intervenu parce qu'il y avait du tripotage de notes. Fait que là, on a des enfants qui, à l'école, dans un environnement encadré, sécuritaire, apprennent pas à gérer un échec. Ben, comment vous voulez que dans leur vie personnelle, ensuite, tu sais, tu coules en mathématiques, il y a un prof derrière toi, il y a des récupérations. Mm. Tu te plantes dans ta vie de couple, puis surtout si tu te plantes à 30, tu te plantes à 16 ans, c'est une chose, tu te plantes à 38 avec des enfants, c'en est un autre. Et on n'apprend plus dans notre société à vivre avec l'échec, ce qui fait que quand les gens, malheureusement, vivent une rupture, on va se le dire, c'est un échec, ben, malheureusement, ils font des mauvais choix. Puis, malheureusement, ça dérape, là. Mais je pense que, puis tu sais, je me souviens, il y a quelques années, vous aviez sorti un extrait d'un cours d'économie familiale qui était, bon, on va se le dire, franchement sexiste.
Ouais.
Mais moi, quand j'étais élève, le cours d'économie familiale, on était rendu ailleurs, là, il y avait plus ce discours-là. J'avais la discussion hier dans la salle des enseignants avec une collègue qui, justement, enseignait ce cours-là. Il y a peut-être des choses de ce cours-là qu'on a enlevées, qu'on aurait peut-être dû garder. Tu sais, le monsieur avant parlait de la question de la charge mentale, mm-hmm. faire à manger, ces trucs-là. On n'enseigne plus ça dans les écoles parce qu'on a fait des choix. Mais des fois, je me dis, on paye peut-être le prix aujourd'hui de ça.
Ouais.
C'est des choses qui sont des bases. Puis à l'école, est supposé former les citoyens de l'avenir, pas juste des travailleurs. Et je pense qu'à l'école, on a peut-être fait des mauvais choix et on commence, par exemple, les cours à sexualité, on commence à payer le prix.
Ouais, vous avez tout ça est bon, Rémi. Je trouve que tout ça, ça nous ouvre une belle discussion. Puis vous avez raison de dire que c'est des choix puis que peut-être c'est pas les bons choix tout le temps qu'on fait en matière d'éducation. Merci beaucoup, Rémi, de votre témoignage. Alain, vous avez entendu Stéphane tout à l'heure. Et Rémi, là, l'enseignant qui le vit aussi, qui est en contact avec des jeunes, il faut parler entre gars, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi ça là, qui vous a aidé.
Oui, il faut parler, puis il faut... Ben, en tout cas, moi, ce qui est important, c'est d'être capable de faire confiance aux hommes.
Mm-hmm.
D'être capable de montrer sa vulnérabilité face aux autres hommes et d'avoir confiance, de se faire accueillir là-dedans. C'est pas vrai qu'un homme avec un genou à terre qui va se faire démolir. Je n'ai jamais vu ça. Dans les ateliers que j'ai faits, j'ai participé, j'ai été bénévole, j'ai vu des hommes qui sont rentrés très solides et qui sont ressortis après un week-end avec une solidité incroyable, mais très, très sensible et très près de leurs émotions. Et je crois que c'est là l'évolution de l'homme, c'est vers là qu'on devrait s'en aller.
Ne pas avoir peur de se montrer vulnérable, finalement.
Exactement, exactement. Ouais. Tu sais, nos peurs, c'est ce qui nous habite. Fait que c'est de prendre nos peurs par la main et de faire le grand saut puis de dire, je l'essaie. C'est sûr que je ne me montre pas vulnérable partout.
Mm-hmm.
Je choisis mes endroits. Même là, aujourd'hui, c'est un risque pour moi de parler là, en ligne comme ça.
Pourquoi?
De montrer ma vulnérabilité, parce que là, je parle avec mon cœur, je suis sensible, et c'est ça qui me permet d'avancer, de me donner des défis. Puis principalement, ce que je veux, c'est si je peux aider un homme, deux hommes au Québec. Pour moi, c'est ce qui est important.
Mais je vais vous le dire, Alain, c'est un beau risque que vous avez pris, puis merci. Je pense qu'il faut justement le dire aux gars, c'est voyez pas ça comme quelque chose qui vous fragilise de prendre la parole, bien au contraire. Et qu'il y ait une véritable conversation qui s'amorce entre hommes, entre vous, et entre hommes et femmes et autres genres. Je pense que, comme le disait David Goudreau, c'est pour faire un monde meilleur pour tout le monde. Tout le monde. Merci beaucoup, Alain. C'est vraiment super apprécié votre témoignage ce matin. Merci bien. J'espère que vous avez apprécié le faire, que vous êtes content, parce qu'en tout cas, ça a fait beaucoup, beaucoup de réactions, de bonnes réactions positives. Daniel, Alexandre, Marco, plein de gens l'écrivent. Merci, Alain.
Merci de l'intervention de Sylvie aussi. Merci beaucoup.
Merci.
J'ai bien apprécié.
On vous laisse aller. Sylvie, reste encore avec nous encore quelques minutes. Nos lignes sont pleines. On va essayer de vous donner la parole. À tout de suite. On a Jasmin qui est au bout du fil. Bonjour, Jasmin. Vous avez vécu au moins une rupture amoureuse, puis ça n'a pas été facile. Comment vous êtes passé à travers?
Ben, en fait, nous, on s'est laissé en novembre. Puis, comme Alain, c'est une rupture sans réponse. Puis, tu sais, comme vous avez dit, c'est vraiment, je crois, la chose la plus douloureuse qui existe. Parce qu'on comprend pas, absolument pas ce qui se passe en nous. Puis, moi, le lendemain, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est un psychologue dans mon entourage. Puis, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, je dis, écoute, je dis, il faut que tu m'aides. J'ai quelque chose de noir en dedans de moi. Puis, je comprends pas ce qui se passe. Puis, c'était très difficile à gérer. J'avais une pression à l'intérieur de moi que je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis, tu sais, je sentais que j'avais besoin d'aide parce que j'avais peur de faire... J'avais peur de ce que je pouvais faire.
En fait. Ah, ouais.
Puis, je suis allé le voir. J'ai parlé avec lui. Puis, tu sais, on a défait un nœud à la fois. On a jasé d'un peu tout ça. Puis là, maman, il m'a dit... Il dit, arrête de me parler d'elle. Il dit, c'est toi que je te parle. Elle, il dit, on oublie, là. Il dit, garde, il dit, ça sert à rien, là. Il dit, attends plus. Genre, tu sais, on a trouvé les failles de, genre, garde, il disait, mettons, tu l'écoutes pas, ou whatever, tu sais, t'es quelqu'un, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est en affaires, j'ai une business, puis tu sais, je suis quelqu'un qui prend de la place, puis tu sais, genre, des fois, je laisse pas tant ma place. Puis là, ben, tu sais, c'est juste un moment où tu te dis, ben, je veux devenir une meilleure personne, tu sais.
Mm-hmm.
J'ai été me chercher des livres sur la communication de l'être humain. J'ai été me chercher le maximum d'outils pour m'aider. J'ai parlé avec des gens, j'ai pleuré devant des gens. Tu sais, j'ai des gens plus vieux autour de moi qui m'ont dit, tu vas voir, et dit, tu vas avoir l'impression de traverser une rivière, puis dans quelques semaines, tu vas avoir de l'eau par-dessus la tête. Mais continue d'avancer parce que là, au bord de la rivière, là, tu vas voir, le soleil va être là.
Exact. Ouais. Faut pas devenir amer puis ne plus croire en l'amour. Exactement.
Là. C'est ça. Moi, c'était comme un mois avant Noël. Je sais pas si vous le savez, mais les logements, un mois avant Noël, j'ai une petite fille de 5 ans où je vais fêter Noël avec ma fille.
Ah, oui.
Tu sais, là, tu dis, Colin, comment je vais expliquer ça? Parce que nous, on avait chacun un enfant de des unions différentes.
Mm-hmm.
Tu sais, je veux pas les enfants. C'est des frères et des sœurs, là, tu sais, on enseigne à devenir comme des frères, là, tu sais, genre, faire sa deuxième maman, faire ton deuxième frère, tu sais, c'est dur, comment je vais annoncer ça à mon enfant, comment je vais...
Puis vous avez raison, Jasmin, merci de votre témoignage, merci bien. C'est vrai que les enfants sont là-dedans, puis ça serait l'objet d'une autre discussion plus longue, mais effectivement, les enfants là-dedans aussi qui nous regardent rompre. Richard, très rapidement, malheureusement, il nous reste peu de temps, mais je veux quand même vous entendre quelques secondes. Richard, bonjour.
Oui, bonjour. Mon commentaire va être court, de toute façon. Tout ce que je voulais dire, bon, moi, j'ai divorcé en l'an 2000, après 12 ans de mariage, j'ai 3 enfants. Moi, c'est dans la façon que ça m'a été annoncé, parce que je sentais qu'il se passait quelque chose, sauf que je l'ai appris au téléphone. La personne se trouvait à son travail, puis elle n'était pas rentrée de la nuit, elle était chez son chum là, qu'elle convoitait. Puis elle m'a appris au téléphone, je t'aime plus, je vais me séparer, tout ça. Donc, ce matin-là, en plus, c'était la fête d'un de mes enfants, puis j'ai dû m'occuper de 10 enfants toute la journée pour célébrer la fête de mon petit garçon. Donc, c'est un peu pour ça, tout ce que je veux dire, c'est soyez respectueux, que ce soit l'homme ou la femme, quand vous vous séparez, au moins, ayez du respect quoi, pour la personne, surtout quand ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble et vous partagez là, des enfants.
Tellement. Merci.
Aujourd'hui, là, je vous dirais que c'est la seule chose qui me fait de la peine parce que j'ai rencontré une personne formidable aujourd'hui puis tout va très bien. Donc, il y a de l'espoir.
Voilà. Merci beaucoup, Richard. Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Là, Jasmin nous disait tout à l'heure, je comprenais pas ce qui se passait. Puis c'est intéressant parce que j'ai reçu tout à l'heure un courriel de Valérie qui me dit, on entend beaucoup les hommes dire qu'ils l'ont pas vu venir, la rupture.
Ouais.
Alors qu'ils ont souvent eu beaucoup de messages d'avertissement sur la relation qui fonctionne pas. Elle me parle de son expérience à elle. Elle dit, l'aveuglement volontaire est une cause de la détresse et de l'incompréhension lors de la rupture. Le père de mes enfants me disait qu'il ne comprenait pas alors que je dormais depuis 2 ans sur le divan, que je lui ai laissé 1001 chances concernant sa violence psychologique, physique et verbale. Il faudrait aussi peut-être que certains soient plus à l'écoute et agissent quand ça ne va pas pour pouvoir discuter et non pas quand c'est trop tard, dire « ben voyons donc, qu'est-ce qui vient de m'arriver? »
C'est très juste ce qu'a dit. Quand j'ai des hommes qui consultent, je suis toujours très honorée quand les hommes viennent et prennent la décision de consulter une femme. Il y en a qui osent me dire, ben je vais avoir l'opinion d'une femme aussi, je vais avoir accès à la psyché d'une femme parce que je peux bien comprendre, mais je comprends pas peut-être dans la tête de l'autre. Et c'était mon devoir de les aider à voir un peu plus clair de dans l'autre partie comment elle a pu vivre ça, puis qu'est-ce qu'elle essayait de dire. Alors ça va des deux côtés dans une dynamique conjugale. Il y en a qui peuvent faire d'aveuglement volontaire ou du déni. Hein? C'est pas vrai, ça va bien, on avance, tout, ça va bien aller, c'est beau. Mais il faut aussi que l'autre personne puisse dire ça va pas, je suis malheureuse, je me sens délaissée, je me sens mal aimée, mes besoins sont pas comblés. Des fois, il faut. Ce que je recommanderais à plusieurs femmes à l'écoute, c'est soyez précise, tu sais, du point A au point B, ligne directe. Et non pas, il va comprendre, il va déduire, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas voir et ne veulent pas comprendre.
Puis être claire et respectueuse, oui. Comme disait Richard. Quand on a aimé quelqu'un, on ne peut pas le laisser tomber comme ça non plus. Là. Merci beaucoup, Sylvie Lavallée. Merci bien.